là.
Installation. Bonjour à tous, c'est un plaisir, une joie d'être avec vous. On a vraiment vécu un bon temps depuis vendredi soir. Vous avez un week-end chargé, hein ? Et j'ai vu qu'il y avait un jeune en plus derrière, là. Non ? Enfin, il y a écrit jeune, hein ? Nicolas Guillet, jeune derrière. Donc moi, je ne vais pas jeûner, hein, je vous préviens. En tout cas, c'est une église qui se consacre et c'est vraiment encourageant de voir cela. Vous savez, il y a un mouvement de Dieu en ce moment dans le pays, c'est de lever des sacrificateurs. Et c'est pour ça qu'on a fait ce séminaire aussi, hein, pour parler de la sacrificature. Et sacrificateurs, c'est quoi ? Ce sont des hommes et des femmes qui prennent conscience de leur identité en Christ et qui donnent comme priorité à leur vie de servir Dieu. C'est tout simple. Et la grande différence entre ça et peut-être les années passées, ou enfin bref, c'est qu'avant, ceux qui servaient Dieu, c'était les pasteurs, les serviteurs de Dieu. Mais ben c'est fini ce temps-là. Nous, ça y est, on va s'asseoir, on se repose. Nous avons une confirmation à ma droite. C'est un temps maintenant où l'ensemble du peuple de Dieu prend conscience de sa vocation céleste d'être serviteur de Dieu et serviteur des hommes. Nous avons tous une part dans cette sacrificature et c'est fantastique. Donc ce matin, on va continuer en fin de compte, puisqu'on a déjà bien introduit le sujet, en parlant d'Israël. On a parlé de cette rafle du Veldiv et tout ce qui s'est passé en France dans les années 40 qui était terrible et dans toute l'Europe. Et malheureusement, cet esprit d'antisémitisme est toujours à l'œuvre. Il ne s'arrête pas. Il ne s'arrête pas, il s'arrêtera un jour, comme toutes les ténèbres qui sont sur la terre. Mais il faudra attendre encore un peu de temps. Et l'antisémitisme est à l'œuvre dans notre pays, dans notre continent européen et dans toutes les nations. Et il continue son travail. Et la différence peut-être, qui est une différence, on va dire, de stratégie de cet esprit mauvais, c'est qu'il se cache maintenant derrière ce qu'on appelle l'antisionisme. Vous savez que depuis 1948, Israël a retrouvé sa nation, son pays, sa terre, et ça a été justement le fruit de toute cette horreur de la Shoah. Il y a eu un fruit positif, c'est que les Nations Unies ont décidé, mais quand même, on va réparer et on va permettre à Israël de retrouver sa terre. Et bien sûr, c'était la main de Dieu qui était à l'action derrière cela. Et donc, depuis 1948, Israël a retrouvé sa terre et les Juifs du monde entier reviennent à Jérusalem, reviennent en Israël. Et l'antisémitisme prend une nouvelle forme. Et cette nouvelle forme s'appelle l'antisionisme. C'est-à-dire qu'on se cache derrière une espèce de doctrine politique qui vous la connaissez, hein, qui est en train de dire « mais en fin de compte, c'était la terre des Arabes, et c'est la Palestine, ça appartient aux Palestiniens, enfin, etc. » Et en France, cette doctrine-là est très présente. Elle est très présente. Mais l'esprit qui est derrière est le même. Alors bien sûr, les gens ne vont pas vous dire qu'ils n'aiment pas les Juifs. Mais l'esprit qui les motive, c'est le même. Et l'objectif est le même. Et cet objectif, c'est la destruction d'Israël. C'est la destruction du peuple d'Israël. Alors, c'est pas très joyeux comme thème, mais ne vous inquiétez pas, le Seigneur a un plan magnifique pour son peuple. Mais il faut que l'Église comprenne ce plan, il faut que l'Église comprenne son rôle, il faut que nous soyons non seulement soutien de ceux qui travaillent pour Israël, des œuvres qui travaillent pour Israël, mais que nous soyons soutien du peuple d'Israël, chacun pour notre part. Parce que nous avons une grande redevabilité envers ce peuple d'Israël. S'il n'était pas passé par là, nous ne serions pas là aujourd'hui. Jésus lui-même l'a dit, le salut vient des Juifs. Dis à ton voisin, si tu es sauvé, c'est grâce à un Juif. Eh oui, eh oui. Et pas n'importe lequel, on est d'accord. Mais Jésus est juif. Et j'ai fait exprès de dire, il est juif. C'est pas juste, Jésus était juif lorsqu'il est venu sur la terre. Non, non, Jésus, ressuscité, glorifié, assis à la droite de Dieu dans les lieux célestes, est juif. Pourquoi ? Parce que c'est le fils de David. Et dans l'Apocalypse, on parle de lui, dans la vision de Jean, comme étant le lion de la tribu de Juda, le fils de David. Et oui, sur les portes, sur les fondements et les portes de la Nouvelle Jérusalem, il y aura 24 noms. Le nom des 12 apôtres et le nom des 12 tribus. Et d'ailleurs, je vous rappelle que les 12 apôtres étaient juifs. Donc du coup, on aura 24 noms juifs sur la Nouvelle Jérusalem. On peut toujours essayer de les rayer de la carte. Je vous assure, le Seigneur ne les a pas rayés de la carte. Il les a mis partout. Ils sont là. Et ils étaient là avant nous. Et ils seront là dans les temps de la fin pour l'accomplissement final du projet de Dieu. Alors, je vous invite... Alors, on va essayer là. Il faut que je regarde l'heure. Hein, parce que... Je vous invite dans un premier verset qui se trouve dans Deutéronome. Oui, je me disais pourquoi je dis Deutéronome. Dans Exode 19, versets 5 et 6. C'est le verset que j'ai cité hier de tête et je ne vous avais pas donné la référence. Et du coup, on va le lire et on va faire le lien entre l'enseignement de la sacrificature qu'on a vu pendant toute la journée et Israël. Exode 19, versets 5 et 6. Maintenant, si vous écoutez ma voix, si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Donc c'est Dieu qui dit à Moïse d'annoncer à Israël qu'il est un peuple à part, un peuple qui appartient à Dieu, entre tous les autres peuples de la terre. Le peuple d'Israël est son peuple, celui qui lui appartient en propre. Et il dit à Moïse de leur dire « Vous serez un peuple, un royaume de sacrificateurs, une nation sainte. » Et tout ce qu'on a vu hier sur la sacrificature, tout ce qu'on a étudié, en fin de compte, Israël l'a été avant nous. Et Israël continue de l'être pour Dieu. Et il y a là une dimension de sacrificature qui est celle que Dieu a posée comme un modèle sur lequel nous avons été greffés. Il est ce peuple mis à part qui appartient à l'Éternel parmi tous les peuples de la terre. Je vous invite maintenant dans un verset du prophète Jérémie au chapitre 31. On est dans les promesses de la Nouvelle Alliance. Au verset 35 et suivant, voilà ce que le Seigneur déclare par la bouche de Jérémie concernant Israël. « Ainsi parle l'Éternel qui a fait le soleil pour éclairer le jour, qui a destiné la lune et les étoiles à éclairer la nuit, qui soulève la mer et fait mugir ses flots, lui dont le nom est l'Éternel des armées. Si ses lois viennent à cesser devant moi, dit l'Éternel, la race d'Israël aussi cessera pour toujours d'être une nation devant moi. Ainsi parle l'Éternel, si les cieux en haut peuvent être mesurés, si les fondements de la terre en bas peuvent être sondés, alors je rejetterai toute la race d'Israël à cause de tout ce qu'ils ont fait, dit l'Éternel. Qu'est-ce que nous dit ce texte ? Le Seigneur prend les lois de la création. Et il dit ces lois, si jamais un jour elles s'arrêtent, alors je rejetterai Israël. Ensuite, il nous parle de sonder les profondeurs des cieux et les profondeurs de la terre. Et nous dit, si on arrive à sonder les profondeurs des cieux et les profondeurs de la terre, alors la race d'Israël ne sera plus un peuple devant moi. En fin de compte, il est en train de dire, c'est impossible. C'est impossible que ces choses s'arrêtent. C'est impossible de sonder l'univers qui est infini. Donc, la race d'Israël ne cessera jamais d'être une nation devant lui, malgré leurs fautes, malgré ce qu'ils ont fait au moment où Jésus est venu. Et ils ne l'ont pas fait tout seuls, ils l'ont fait avec les Romains, de mettre le Seigneur sur la croix. Malgré leurs fautes, le Seigneur ne les a pas rejetés et ne les rejettera jamais. Et maintenant, je vous amène dans l'Épître aux Romains. Et c'est là où on va s'arrêter quelques instants. Comme je le disais hier, l'Épître aux Romains est une épître très intéressante parce qu'elle expose la doctrine paulinienne du salut. Paul n'a pas encore été à Rome et il va envoyer une lettre à l'avance pour dire « voilà ce que j'enseigne dans toutes les villes et les églises que je visite, voilà ma doctrine ». Donc il se présente. On a la présentation de la doctrine de Paul dans l'Épître aux Romains, et c'est très intéressant de l'avoir. Et l'Épître aux Romains, vous savez, ça a été l'épître de la révélation de Martin Luther, lorsque, au moment de la réforme, il a découvert le salut par la foi, et la justification par la foi et par la grâce. C'est au travers de l'Épître aux Romains qu'il a étudié en profondeur et qu'il a médité. Mais le problème de Martin Luther et de la plupart des chrétiens après lui, c'est qu'ils se sont arrêtés au chapitre 8 de l'Épître aux Romains et qu'ils ont repris leur lecture au chapitre 12 de l'Épître aux Romains. C'est un mystère. Il y a des mystères comme ça. Pourquoi des gens d'une telle capacité intellectuelle de méditation et d'enseignement? Et on respecte énormément ce que Luther nous a apporté. Ça fait partie aussi des fondements de notre foi. Pourquoi ils n'ont pas vu ces chapitres? Il y a un aveuglement qui vient même sur l'Église, même sur les plus grands enseignants de l'Église concernant Israël. Pourquoi cela? Parce que nous sommes dans un combat spirituel qui dure depuis des siècles. Et le combat spirituel est un aveuglement qui touche l'Église. Et on ne va pas rentrer dans l'histoire de l'Église, mais vous le savez certainement, vous avez entendu parler de cela. Il y a une doctrine dans l'histoire de l'Église qui s'appelle la doctrine, la théologie du remplacement, qui est justement une théologie qui nous dit que Dieu a rejeté définitivement Israël. Il n'y a plus de plan pour Israël, il n'y a plus de rédemption pour Israël. Maintenant, c'est l'Église qui a remplacé Israël. Et toutes les promesses qui étaient faites à Israël s'accomplissent dans l'Église. Et cette doctrine du remplacement, qui est très insinueuse, parce qu'on peut trouver des versets qui semblent dire cela, mais c'est qu'une partie de ce que la parole révèle concernant Israël. Et cette théologie du remplacement, elle a fait énormément de dégâts, parce qu'elle existe depuis des siècles. Et l'antisémitisme a trouvé dans cette théologie du remplacement un terrain favorable pour que l'Église devienne un instrument pour répandre cette haine anti-juive. Alors on s'est repenti souvent et on le fait encore. Parce que l'Église a une grande part de responsabilité en Europe et dans toute l'histoire européenne concernant la persécution des juifs. Que ce soit en Russie, que ce soit en Espagne, que ce soit en France bien sûr, soit en Pologne, et Hitler, c'est la cerise sur le gâteau. Mais toute l'histoire des siècles passés nous parle de cela et nous raconte cette persécution. Qu'est-ce que nous dit Paul dans Romains, chapitre 9, 10 et 11? Il est toujours dans son exposé de la doctrine du salut. C'est toujours un exposé qui continue, ça ne s'arrête pas au chapitre 8, au chapitre 9, il continue, sauf que là, il va parler justement du salut pour Israël, pour son peuple. Et on va lire les premiers versets du chapitre 9. « Je dis la vérité en Christ, je ne mens point, ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. J'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin continuel. » Car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents selon la chair, qui sont les Israélites, à qui appartiennent l'adoption, la gloire, les alliances, la loi, le culte, les promesses et les patriarches, et de qui est issu selon la chair le Christ, qui est au-dessus de toutes choses, Dieu béni éternellement. Amen. L'apôtre Paul va introduire le salut d'Israël, la place d'Israël dans le plan de la rédemption, par son cœur de compassion pour son propre peuple. Vous vous rappelez, hier, pour ceux qui étaient là, on a parlé du pectoral que les intercesseurs portent sur leur cœur avec des nations, avec des peuples, des groupes de personnes dont ils sont porteurs devant Dieu. Bien évidemment, Paul porte son peuple devant Dieu. Et son intercession pour Israël est telle qu'il est prêt à devenir séparé de Christ, anathème. C'est l'intercession la plus forte qu'on puisse avoir. C'est ce que Moïse avait demandé à Dieu. Raye-moi de ton livre de vie plutôt que de détruire le peuple. C'est l'intercession de Christ. Et donc Paul est saisi de compassion. Il faut se rappeler que Paul, non seulement il est juif, mais il était pharisien. Il était un persécuteur de l'Église. Il faisait partie pleinement de ce peuple qui a rejeté le Messie. À la persécution, à la lapidation d'Étienne, Paul était présent. Jusqu'à ce que Dieu l'arrête sur la route de Damas. Par sa grâce infinie, il se révèle à lui. Qui es-tu, Seigneur ? Je suis celui que tu persécutes, en persécutant l'Église. Donc Paul sait exactement de quoi il est question concernant l'Israël de sa génération qui a rejeter le Messie, mais lui fait partie de ceux qui l'ont accepté. Et donc il va exposer sa doctrine concernant la place d'Israël et le salut d'Israël, mais on va s'arrêter quelques instants sur cette liste de choses qu'il dit appartenir à Israël. Et c'est très fort. Et ça nous montre l'héritage qu'Israël est pour nous. La liste de ces choses. On va les voir chacune rapidement. Tout d'abord, l'adoption leur appartient. L'adoption. Israël connaît l'adoption de Dieu. C'est une adoption qui n'est pas individuelle, c'est une adoption qui est communautaire. C'est-à-dire que Israël a été adopté par Dieu en tant que peuple. Israël a une compréhension de Dieu le Père d'une manière communautaire. Ils sont le peuple adopté par Dieu. Un peuple qui n'était pas un peuple au départ. Dieu l'a créé de toutes pièces. Lorsque Dieu a appelé Abraham, qu'il l'a fait sortir d'Ur en Chaldée et qu'il l'a séparé par une alliance de foi et par la circoncision, il a en fin de compte à ce moment-là créé un peuple de toutes pièces. Et Abraham est devenu le premier de cette lignée qui va devenir, par les 12 tribus, au travers de Jacob, le peuple d'Israël. Abraham, Isaac et Jacob. Et Dieu a uni son nom à ce peuple pour l'éternité. Lorsque Moïse demande à Dieu, mais quel est ton nom au buisson ardent ? Qu'est-ce que je vais leur dire ? Tu leur diras, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob m'a envoyé vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité. Voilà mon nom pour l'éternité. Ça veut dire que Dieu a uni son nom trois fois saint, son nom imprononçable, il l'a uni pour l'éternité à trois personnes. Abraham, Isaac et Jacob. Waouh ! On ne peut pas enlever ça. C'est pour l'éternité. Donc l'adoption leur appartient. Ils sont le peuple premier-né. Dieu aime tous les peuples de la terre, vous le savez bien, et c'est une évidence. Mais il est le premier-né, celui qu'il a mis à part parmi toutes les autres nations. La deuxième chose qui appartient à Israël, et le mot appartient est fort, c'est la gloire. La gloire leur appartient. C'est le peuple qui a vécu et expérimenté la gloire de Dieu en tant que nation. Lorsque Israël est sorti d'Égypte, c'est à bras forts et à mains étendues, c'est-à-dire par la puissance de signes, de prodiges et de miracles que Dieu a fait sortir Israël d'Égypte. Vous vous rappelez hein, les 10 plaies d'Égypte et tout ce moment fantastique au travers de la Pâque où Dieu va ouvrir la mer Rouge, va faire sortir Israël et va les accompagner par sa présence. Lorsqu'ils rentrent dans la mer Rouge, Dieu les sépare de leurs ennemis par un écran de feu qui devait faire un kilomètre de long sur 100 kilomètres de haut. Je dis n'importe quoi, mais vous voyez ce que je veux dire. Ils ont vécu la gloire de Dieu. Et ensuite, cette gloire les a accompagnés au désert. Cette gloire était présente avec eux. Elle leur appartient. C'est leur expérience, ce n'est pas la nôtre. Qu'est-ce qui leur appartient encore ? Les alliances. Je ne vais pas parler de toutes les alliances, mais il y a 2 alliances principales. L'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Les alliances appartiennent au peuple d'Israël. Alors vous allez me dire, c'est évident pour l'ancienne alliance, bien sûr. L'ancienne alliance que Dieu a faite avec Moïse lorsqu'il a donné les 10 commandements sur la montagne au mont Sinaï, c'est la première alliance faite avec le peuple d'Israël et c'est évident que cette alliance leur appartienne. C'est une alliance en plus qui est très dure à porter parce que personne ne peut obéir à la loi de Dieu. Donc c'est une alliance de malédiction. Les pauvres, on est bien content que ce soit eux qui aient cette ancienne alliance et que la nouvelle alliance soit pour nous. Eh bien non, c'est un mensonge. La nouvelle alliance n'est pas pour nous. La nouvelle alliance a été faite avec eux. On n'a pas le temps de lire tous les textes, mais relisez Jérémie 31. Voici la nouvelle alliance que je traiterai avec Juda et Israël. Parce qu'ils n'ont pas persévéré dans ma première alliance, donc je vais en créer une nouvelle pour pouvoir continuer à être en relation avec eux. Et ça va être encore mieux. Parce que cette fois-ci, je mettrai ma loi dans leur cœur. Ça ne sera plus la loi sur le mont Sinaï, ça sera la loi dans leur cœur. Donc c'est toute la nouvelle alliance. Elle est faite avec Israël, avec Juda. On n'a rien à voir dans l'histoire. Si vous lisez le texte, c'est d'une clarté. Cette nouvelle alliance, Jérémie 31, après vous verrez les versets. C'est d'une clarté incroyable. Et la meilleure preuve de cela, c'est que tous ceux qui sont entrés dans l'inauguration de la Nouvelle Alliance étaient bien des Juifs. Vous savez, moi je suis de famille catholique, pratiquante au début et non pratiquante après. Donc j'étais un peu pratiquant quand j'étais petit. Je faisais des bêtises au catéchisme. Non, ça ne vous fait pas rire, c'est pas grave. Personne n'a fait de bêtises au catéchisme ici. Moi je me cachais sous la table, enfin bref. J'ai fait des bêtises partout où j'étais dans ma vie. Je continue à en faire d'ailleurs. Pourquoi je vous disais ça? Oui, parce que pour nous, en tout cas dans ma famille et dans la culture dans laquelle j'ai baigné, Marie, Pierre, Paul, Jean, Jacques et tous les autres n'étaient pas juifs. Ils étaient tous catholiques. Mais bien sûr. Ils étaient tous catholiques, c'était des bons cathos, les gars. Mais vous savez, il y a un aveuglement terrible. Même sur les protestants, on était aveuglés. Moi, je ne savais même pas que les protestants existaient, pour vous dire. Voilà, tu vois. Et pourtant, quand j'allais au lycée, je passais tous les jours devant le temple réformé du Havre, parce que j'habitais au Havre. Tous les jours, en allant au lycée, je passais devant le temple réformé, j'étais incapable de vous dire ce que c'était que ce truc. Pour moi, c'était un vieux bâtiment de la Révolution. Je ne sais pas, j'ai aucune idée. Bon, ça, c'est un autre sujet. Mais c'est le même sujet, dans le sens que c'est un aveuglement spirituel. Non, mais Marie, elle ne s'appelait pas Marie. Elle s'appelait Myriam, la mère de Jésus. Elle était pleinement juive, de la descendance de David. Et Pierre, Paul, etc., c'est tous des juifs. Donc la première alliance a bien été contractée avec des juifs. Lorsque Jésus prend le pain et le vin dans le dernier repas, c'est le repas de la Pâque juive. Et il fait ça avec des juifs. Et il inaugure la nouvelle alliance en son sang. Donc les alliances leur appartiennent. Et bien évidemment, nous en sommes au bénéfice. Ensuite, la loi, eh bien, là, c'est évident, elle leur appartient. La loi là, a été donnée au peuple juif. Et bon, il y a plein de choses à dire, mais ce que je voudrais dire, c'est que c'est un privilège absolument extraordinaire qu'ils ont eu, de recevoir la loi de Dieu, les 10 commandements. Vous savez que les 10 commandements ont influencé et influencent toutes les cultures de la terre aujourd'hui. Les 10 commandements, c'est quelque chose qui rayonne. La loi de Dieu a été donnée à un peuple, et ce peuple a été sanctifié par cette loi. C'est-à-dire qu'il a été séparé des autres peuples de la terre parce qu'ils avaient des commandements qui venaient de Dieu, qui étaient des commandements saints, et ils ont mis en pratique ces commandements. On dit toujours qu'Israël a désobéi, mais écoutez, qui c'est qui n'a pas désobéi ici? Ça, c'est l'humanité qui désobéit à Dieu. Mais Israël est le peuple qui a mis la loi de Dieu en pratique pendant des siècles. Une loi qui était à la fois morale, avec des commandements moraux, à la fois cultuelle, avec des commandements concernant le culte lévitique, et à la fois sociale, politique. Tout le style de vie, toute la culture d'Israël a été créée par cette loi, qui donnait un cadre absolument fantastique, essentiel, et comme on le verra, qui a permis la venue du Messie. La loi leur appartient, le culte leur appartient. Israël a reçu de la part de Dieu toutes les instructions du tabernacle et du culte. C'est Dieu qui leur a dit comment s'approcher de lui. Ils n'ont pas inventé cela. Tout est explicité dans la loi, et donc c'est eux qui ont le privilège d'être le seul peuple de la terre à connaître le chemin pour entrer dans la présence de Dieu. Pendant des siècles. Et ce chemin, c'est le sacrifice. C'est le sacrifice. Et c'est la grâce de Dieu. Vous savez que les Israélites ont connu la grâce de Dieu. Pendant toute cette période de la loi qui les condamnait, ils avaient accès au pardon par le sacrifice. Ce n'était pas juste pour faire joli lorsqu'ils amenaient un agneau sur l'autel. C'était pour obtenir le pardon. Et ils obtenaient le pardon. C'était un pardon provisoire, c'était un pardon qui ne changeait pas l'intérieur de leur cœur, mais c'était quand même un pardon. Parce que sinon, ils auraient été détruits tout de suite. La présence de Dieu était là. Mais ils étaient pardonnés. Ils ont reçu toutes les instructions lévitiques, sont l'ombre des choses à venir. Mais c'était quand même une ombre efficace pour eux. Ils ont marché avec Dieu et ils ont découvert sa présence. Et tous les psaumes de David et d'Asaph et des autres nous parlent d'une connaissance de Dieu véritable. Les premiers chants de louange qui ont été écrits par David, c'est des tubes. C'est des tubes, faut qu'on arrête avec nos trucs, nous. Il y a des psaumes, c'est fantastique. Non, je dis, faut qu'on arrête, c'est une blague à la Nicolas. Moi, j'en ai composé des trucs. Mais franchement, il y a 2500 ans, David, il composait des chants de louange et d'adoration. Il connaissait l'intimité de Jésus. Enfin, pas de Jésus, mais de Yahvé. On continue, sinon je vais passer la journée. Ils ont reçu aussi, et ça leur appartient, les promesses. Je ne sais plus combien il y a de centaines de promesses dans l'Ancien Testament. Et c'est extraordinaire. Ces promesses ont toutes été faites à Israël. Elles leur appartiennent. Il y a quelques petites allusions aux nations. Heureusement, on a notre part dans les promesses. Mais si vous faites le tri, si vous gardez que les promesses qui ont été faites aux nations dans l'Ancien Testament, il ne vous restera plus grand-chose. Du coup, l'Église s'est appropriée toutes les promesses faites à Israël. Bien évidemment. L'amour, la grâce. Et on a tout spiritualisé. Par exemple, je mettrai de l'eau sur la terre aride, desséchée, vous savez, comme le dessin d'hier. C'est une promesse fantastique. Nous, on la spiritualise. Quand je suis un peu sec, je prends ce texte et je dis « Seigneur, envoie ton eau dans ma vie ». sur la terre desséchée de mon cœur. Et on a le droit de faire ça, il n'y a pas de souci. Mais à l'origine, c'est une promesse qui est faite à Israël pour sa terre. Et c'est eux qui ont le droit de prendre cette promesse et d'exiger, entre guillemets, dans la prière, de l'attendre dans la foi pour qu'elle se réalise pour leur nation. Et d'ailleurs, Israël, qui était un désert il y a une cinquantaine d'années, a refleuri. Et il y a énormément de promesses qui se sont accomplies dans l'histoire d'Israël. Mais il y a aussi beaucoup de promesses qui ne se sont pas accomplies. Et du coup, on se dit, mais c'est normal parce que tout s'accomplit dans l'Église. Mais non, parce qu'il y a beaucoup de promesses, et on n'a pas le temps de les voir, mais qui concernent la terre, qui concernent le pays, qui concernent le projet de Dieu pour le retour du Messie. Et toutes ces promesses-là ne se sont pas encore accomplies. Elles sont en train de s'accomplir. Et c'est pour ça qu'un des signes les plus percutants que le Seigneur Jésus est à la porte et qu'il revient bientôt, c'est le retour d'Israël sur sa terre. Parce que des prophéties qui étaient demeurées mortes pendant des siècles et qu'on ne pouvait pas imaginer même qu'elles s'accompliraient un jour, puisqu'elles concernaient la terre, sont maintenant possibles parce qu'Israël a retrouvé son pays et sa terre. Vous savez, il y a deux signes du retour de Jésus qui sont incontournables aujourd'hui. Il y a celui-là, Israël a retrouvé sa terre, et il y a le fait que l'évangile a été annoncé à toutes les nations. Et Jésus a dit, alors viendra la fin. Donc je ne vous annonce pas le retour de Jésus pour demain, mais je vous l'annonce pour bientôt, comme ça je ne me mouille pas. Ça fait 2000 ans qu'on le dit. Mais ces deux signes-là sont incontournables. On est dans une période de l'histoire passionnante, où Jésus revient bientôt à Jérusalem pour régner sur la terre entière. On continue notre texte. Ce qui appartient également à Israël, ce sont les patriarches. Les patriarches. Abraham, Isaac, Jacob, Joseph et tous les autres. Les patriarches, bien évidemment, leur appartiennent. Et alors, les patriarches sont ceux qui ont ouvert la voie pour le salut. Et notamment Abraham. Ce sont ceux qui ont été, dans leur marche avec Dieu, les clés pour que nous puissions un jour découvrir le salut et la grâce. Le salut, la justification par la foi, a été inaugurée par Abraham. Et c'est sa foi qui est devenue un modèle pour tous ceux qui croient aujourd'hui. Et je termine ce texte avec, bien sûr, le moment final attendu. Et de qui, donc d'Israël, est issu, selon la chair, le Christ, qui est au-dessus de toute chose, Dieu béni éternellement. C'est de ce peuple qu'est issu le Messie. Vous savez que Christ et Messie, c'est le même mot. Jésus est le Messie. Jésus-Christ, c'est Jésus le Messie. Eh bien, ce Messie, ce sauveur du monde, il vient d'Israël. Et en fin de compte, le projet de Dieu, la stratégie de Dieu pour la rédemption, c'était de faire venir un sauveur. Mais il ne pouvait pas faire venir un sauveur n'importe où sur la terre. Il ne pouvait pas envoyer son fils, deuxième personne de la Trinité, dans ce projet fou de l'incarnation, devenir un petit bébé et naître dans une famille humaine. Il ne pouvait pas faire ça au milieu d'une nation païenne. On ne pouvait pas avoir le Fils de Dieu qui naît dans une maison où on adore des idoles toute la journée, où on sacrifie des enfants aux faux dieux. Vous voyez ce que je veux dire? C'était impossible. Parce que cet enfant était fragile. C'était un bébé qu'il devait être éduqué. Et en plus, qui avait pour mission, avant d'arriver à la croix, d'accomplir toute la loi et d'obéir à la volonté de Dieu pour être un sacrifice parfait. Du coup, Dieu a dû tout préparer pour la venue de son Fils. Il a dû mettre tout un paysage en place. Et ce paysage, c'est un peuple. C'est une culture qui a été sanctifiée, qui a reçu la loi, afin que des milliers d'années après, un petit bébé naisse dans une famille qui suit la loi de Dieu, qui va tous les dimanches, non, tous les samedis, à la synagogue. Ça, c'est mon côté catholique qui est revenu d'un seul coup. Qui respecte le sabbat, qui respecte les 10 commandements, qui connaît la loi de Dieu. Jésus a été élevé dans toute la tradition juive et dans toute la loi de Dieu. Et il a grandi en sagesse, en stature, vous connaissez le texte, et il est devenu à 12 ans extrêmement versé dans la parole de Dieu, mais parce qu'il était dans ce contexte. Ce n'était pas que du don spirituel, Jésus, c'était aussi une culture. Il est juif parmi les juifs. Et il obéit à la loi de Dieu et il obéit à son Père. Il fait les deux. Et en faisant cela, il peut devenir le sacrifice parfait. Et donc cette histoire de sacrifice, vous rappelez la prédication la plus puissante et la plus courte de la Bible, c'est celle de Jean-Baptiste. Quand Jésus paraît au Jourdain, Jean-Baptiste le regarde et il dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». S'il n'y avait pas eu 2000 ans de sacrifice et de préparation par le culte lévitique de ce chemin qui permet aux hommes d'être réconciliés avec Dieu par le sacrifice, cette petite prédication, elle ne voulait rien dire. L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, ça ne voulait rien dire. Mais à cause de tout ce qui a été préparé, à cause de toute ce travail des sacrificateurs justement, eh bien, l'agneau de Dieu est l'accomplissement parfait de tous les autres sacrifices. Et du coup, ça prend un sens extraordinaire pour Israël. Il est l'agneau immolé qui, par son sang, va racheter non seulement Israël, mais l'humanité entière. Quel est le plan de Dieu pour le salut d'Israël ? Et dans les quelques temps qui me restent, je vais vous donner plusieurs pistes par rapport à cela. Sans entrer dans le détail, bien sûr. La première question que Paul va poser concernant le salut d'Israël, et on y a déjà répondu, c'est « Est-ce que Dieu a rejeté son peuple ?» Et la réponse, elle est toute simple, elle est dans le texte. « Bien sûr que non. Loin de là, dit Paul. Loin de là. » Chapitre 11, verset 1er. « Je dis donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple ? Loin de là, car moi aussi je suis israélite de la postérité d'Abraham, de la tribu de Benjamin. » Dieu n'a pas rejeté son peuple. Mais Dieu a mis pour un temps Israël à l'écart. Et il y a deux scandales que Paul donne dans ces textes-là pour Israël. Deux scandales que le peuple d'Israël a eu beaucoup de mal à comprendre. Le premier scandale, c'est qu'un reste seulement sera sauvé. C'est-à-dire que le Messie vient, il apporte le salut, et au lieu que tout Israël soit sauvé, ce qui aurait dû être logique dans le projet de Dieu, il n'y en a qu'un reste, qu'une petite partie qui est sauvée. C'est justement ce dont on a parlé tout à l'heure, les apôtres, etc. Ils sont quand même assez nombreux, hein, puisque la première église était composée que de juifs essentiellement. Mais c'est juste un reste. Et c'est un scandale, bien sûr, pour tout ce peuple qui attendait un Messie. Mais ils attendaient un Messie qui allait les délivrer de Rome. Et ils n'avaient pas compris que le Seigneur devait d'abord passer par la mort et être un sacrifice. Et le deuxième scandale, c'est que Dieu va appeler les nations et les peuples qui n'étaient pas son peuple à devenir son peuple. On ne lit pas les versets, tout cela c'est dans le chapitre 11 de l'Épître aux Romains. Et ça aussi, ça a été un scandale terrible. Parce que Israël, malheureusement, s'était enorgueilli de sa position tellement spéciale dans sa relation avec Dieu. Et il y avait une inimitié qui avait été construite entre Israël et toutes les autres nations païennes. Il y avait une séparation, il y avait un racisme. Et ce n'était pas du racisme anti-juif à l'époque. C'était du racisme des juifs envers les autres nations. Ce qui s'est retourné contre eux, malheureusement, dans l'histoire. Mais il y avait une inimitié. Vous vous rappelez, hein, les histoires avec les Samaritains. On ne parlait pas à un Samaritain. On changeait de trottoir lorsqu'on croisait quelqu'un qui n'était pas de la nation d'Israël. Il y avait une apartheid très forte. qui n'était pas voulu de Dieu parce qu'il fallait accueillir l'étranger. Dans l'Ancien Testament, les commandements sont très clairs. Donc à cause de cela, il y a une séparation, il y a une inimitié, il y a quelque chose qui... Et du coup, c'est un scandale parce que Dieu dit, mais eux aussi, je les aime et je vais les intégrer à mon peuple. Et c'est là où on arrive à cette belle image de l'olivier. L'olivier, c'est le peuple d'Israël et c'est un peuple que Dieu a choisi. Et Dieu dit, en fin de compte, je vais greffer sur cet olivier les nations qui n'étaient pas mon peuple. Et je vous fais juste l'image de l'olivier, on se le représente. Il y a des racines. Les racines de l'olivier, ce sont les patriarches. Et c'est Moïse et toute la loi et les commandements, tout ce dont on a parlé, c'est les racines de l'olivier. Et Paul nous dira, attention, souvenez-vous, ce n'est pas vous qui portez les racines qui vous portent. Les racines sont essentielles et tout l'enseignement que nous avons de la parole de Dieu, il vient de là. Ensuite, il y a le tronc de l'olivier. Et le tronc de l'olivier, c'est la lignée de David jusqu'à Jésus, la lignée messianique. La lignée messianique, c'est en fin de compte toute cette préparation et tous les types de Christ qu'il y a dans l'Ancien Testament qui préparent la venue du Messie. C'est le tronc jusqu'à Jésus, le Messie, le germe, celui qui est issu de David. Et jusque-là, on n'est toujours pas là, nous. Et puis, Jésus meurt sur la croix, et là, il se passe quelque chose de très fort, c'est que Dieu va retrancher de l'olivier franc les branches qui n'ont pas cru. Et du coup, il y a un rejet d'Israël de cette génération-là. Et c'est pour ça qu'il y a eu confusion, parce qu'on a cru que Dieu avait rejeté définitivement. Non, il a rejeté ceux qui ont participé à la crucifixion du Messie. Donc il y a une malédiction qui est sur la génération qui a vu le Seigneur Jésus venir et qui a contribué à sa mise sur la croix. Il y a une malédiction, ils ont même dit, c'est le souverain sacrificateur qui a dit que son sang retombe sur notre tête et sur nos enfants. Donc ce sont des branches retranchées. Mais il y a quand même un reste sur cet olivier à ce moment-là qui croit. Et ce sont les apôtres, c'est toute la première église qui croit et qui perdure dans la foi et dans la nouvelle alliance, qui inaugure la nouvelle alliance. Et donc l'olivier du peuple de Dieu continue de croître, malgré le fait que des branches aient été retranchées. Il y a des branches bien vivantes, Pierre, Paul, Jacques et tous les juifs qui ont cru et qui sont les fondements de l'église. Ce sont les apôtres, les fondements de l'église. Et d'un seul coup, le Seigneur dit, je vais maintenant greffer des branches étrangères, celles qui n'étaient pas mon peuple, celles qui n'avaient pas part aux alliances, celles qui ne me connaissaient pas, celles qui étaient éloignées de moi, qui étaient mortes dans leur péché, les Français, les Russes, les Chinois. Je vais les greffer. Et je vais les greffer par la grâce, par la foi. Et le Seigneur, dans la maison de Corneille, inaugure cette première greffe. Et d'un seul coup, toutes les nations commencent à être greffées. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de nations. Et qu'au fur et à mesure que l'Église a grandi, à partir de la mission de Paul, les païens qui sont arrivés par milliers sont devenus la grande majorité du peuple de Dieu. Bien évidemment. Et du coup, on a perdu de vue notre origine. On a perdu de vue ce qui nous portait, la racine, le tronc et la première église. On a perdu de vue que c'était les juifs. Et on s'est glorifié. Et Paul en parle, il dit « Attention, toi qui as été greffé par la foi, attention à l'orgueil, ne te glorifie pas de ce que tu as été greffé. Parce que si les branches qui ont été retranchées le sont à cause de leur désobéissance, si toi tu ne persévères pas dans la foi et dans la bonté de Dieu, peut-être tu seras, toi aussi, retranché. » Donc il y a vraiment un avertissement fort pour l'Église des nations à garder la foi et à reconnecter à ses racines. Et puis je termine avec ça. Ça ne s'arrête pas là, le projet de Dieu pour l'olivier. C'est que le Seigneur promet dans ses textes de Romains 10 et 11 qu'il est puissant pour les regreffer sur leur olivier franc, selon leur propre nature. Il y a toujours eu dans l'histoire de l'Église, depuis 2000 ans, ce qu'on a appelé des juifs messianiques. Il y en a eu très peu pendant plusieurs siècles, c'est-à-dire des Juifs qui découvrent le Messie et mettent leur foi en Jésus. Il y en a toujours eu, mais très peu. Donc ça a été déjà des regreffages réguliers dans l'histoire. Mais depuis les années 50, 1950-1960, il y a un véritable réveil qui a commencé, qui s'appelle le réveil des Juifs messianiques. Ça a commencé beaucoup aux États-Unis. Et il se passe quelque chose depuis 60 ans qui est phénoménal. Ce n'est pas encore le réveil final d'Israël, mais c'est déjà les prémices de ce que Dieu est en train de faire. Il greffe de nouveau les Juifs sur leur propre olivier. Et il nous demande à nous, chrétiens des nations, de les accueillir. De la même manière qu'à la Pentecôte, ils nous ont accueillis dans la maison de Corneille. Ça a été compliqué pour eux de nous accueillir. Vous vous rappelez les discussions qu'ils ont eues? Et puis Pierre qui dit, mais attends Seigneur, les choses impures, j'ai jamais mangé des choses impures. Là. Il lui montre les animaux impurs, il dit, il faut que tu manges maintenant. Mais dans la loi, c'est dit qu'il ne faut pas manger. Ah, mais c'est fini ça. Je suis en train de faire quelque chose de nouveau. Donc intègre les impurs dans ta famille. Ça a été un sacré choc, je peux vous le dire. Et ils en ont discuté en concile. Qu'est-ce qu'on fait avec les païens, etc. Et bien maintenant, c'est le contraire qui nous arrive. Les Juifs, et dans nos cœurs, il y a des racines d'antisémitisme. Elles sont là, parce qu'elles viennent de nos pères. On en a parlé, la France a participé à tout ça. Il faut les accueillir. Il faut les accueillir à bras ouverts. Parce que nous, on est les fils prodigues, eux, ce sont les fils aînés de la parabole. Mais les fils aînés reviennent à la maison. En fin de compte, ils n'étaient jamais partis, mais ils n'avaient pas découvert la grâce et l'amour du Père. Et ils vont être accueillis par le Père de la même manière que nous avons été accueillis par le Père. Et peut-être avec encore plus de force, tellement il les attend. Tellement il les attend. Et donc on est dans cette période magnifique de l'histoire où le peuple de Dieu est en fin de compte réconcilié. Et c'est ce que Paul nous explique dans l'épître aux Éphésiens, au chapitre 2. On ne va pas lire le texte. Mais il parle de cette inimitié qui a été brisée. Cette haine, ce racisme entre les Juifs, Israël et les païens. Ça a été brisé en Christ. Et des deux, il n'en a fait qu'un. Il parle là du corps du Messie, du corps de Christ. Il parle de l'homme nouveau, de la nouvelle humanité. La nouvelle humanité est complétée et accomplie lorsque les Juifs réintègrent l'Alliance et reconnaissent Jésus leur Messie. Et on est dans cette période magnifique de l'histoire. Comment ça va se passer? Là, il y a plusieurs théories, et je ne sais pas. Moi, je n'ai pas la théorie et la science infuse de l'histoire. Mais une chose est sûre, c'est que ça va se passer en Israël, et certainement à Jérusalem. Un esprit de grâce et de supplication va venir sur le peuple d'Israël, et ils vont se lamenter en regardant celui qu'ils ont percé, en tournant leur regard vers celui qu'ils ont percé. Et ils vont revenir à la maison du Père en tant que peuple, en tant que nation. Est-ce que ça sera tout Israël? Pas forcément, puisqu'il est parlé de la plénitude des païens, et ce n'est pas tous les païens. C'est tous les païens qui doivent être sauvés. En tout cas, ça sera un retour, on va dire, global. Ils viendront ensemble. Et reconnaîtront le Messie, et ils seront greffés à nouveau. Et l'apôtre Paul nous dit qu'en ce jour-là, ce sera pour les nations et pour la terre entière le passage de la mort à la vie. Si leur rejet pour un temps a été l'intégration des païens, à combien plus forte raison leur retour sera quelque chose d'encore plus spectaculaire qui s'appelle le passage de la mort à la vie. L'accomplissement de toutes les promesses, la restauration de toutes choses. Et dans cette restauration de toutes choses, il y a le règne du Messie qui vient. Ils attendent Jésus comme nous, nous l'attendons. Mais cette fois-ci, Jésus ne vient pas comme un humble serviteur qui va donner sa vie pour l'humanité. Non, il revient comme un seigneur de gloire, comme le roi des rois. Sur son cheval blanc, il va détruire ses ennemis par le souffle de sa bouche, et il va s'asseoir sur le trône de David, et il va régner à Jérusalem sur toutes les nations. Et c'est ça que nous attendons, et c'est ça qu'ils attendent, et on va être ensemble ceux qui régneront avec Christ. La sacrificature royale qui vient sera composée de juifs et de païens des nations qui ont reçu le Messie par la foi. Le salut pour eux comme pour nous est toujours par la foi. Mais il y a un projet de Dieu spécial pour ce peuple. Amen.